With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Buongiorno.
Dear Gwitch.
Labas.
Hello.
Et bonjour à tous, c'est Casimir. J'anime l'Europe est une fête. Aujourd'hui, je suis entouré de Ruben qui représente les Pays-Bas, de Carla pour l'Italie, de Ruta pour la Lituanie et de Sinead pour l'Irlande. Est-ce que tout le monde va bien en ce 2 février 2019?
Ma una bomba.
Pas mal.
Pas toi, parce que t'es malade.
Ah ouais, moi je suis un petit peu malade, mais je vais tenir 45 minutes. Je vous promets que je vais tenir 45 minutes. Est-ce que ça va les autres? Parce que Carla, ça va, mais vous avez le droit de parler aussi.
Très bien, très bien.
Bah, en forme? L'hiver n'est pas trop long? Non,
Bah, j'ai besoin de soleil, j'en ai marre.
Mais j'allais le dire, hein, il était très très long ce mois de janvier.
Ouais.
Bon, le mois de février est forcément plus court, puisqu'il y a moins de jours. On va commencer notre émission par... oui. On va commencer par un petit extrait musical. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. Vous avez reconnu cet extrait, ou c'était quelle musique? C'était
Killing Me Softly.
Bien, perspicace, bien vu. Oui, c'est une musique des Fugees. Et si j'ai choisi cette musique, c'est déjà parce que je l'aime beaucoup, et aussi parce que Fugees est un diminutif de Refugees, et qu'aujourd'hui, on va parler des réfugiés, puisque le thème du jour de notre émission, c'est l'insertion des réfugiés en Europe. Donc nous, on va l'évoquer peut-être avec un peu moins de hip-hop ou de soul, mais on va quand même l'évoquer à travers vos pays. Chacun va le présenter à sa manière et on va apprendre plein de choses. On va commencer tout de suite par découvrir la chronique de Ruben aux Pays-Bas.
Je me souviens ce moment comme si c'était hier. C'était un vendredi matin en novembre 2002, j'avais 11 ans. Ma professeure principale entre en salle avec mon prof de néerlandais. Et on nous dit que notre camarade de classe Havas ne peut plus rester aux Pays-Bas et qu'elle devrait bientôt partir pour la Syrie avec ses parents et ses frères.
Ah oui.
Mais elle n'a jamais vraiment connu ce pays. Et comme sa famille est kurde, un retour signifierait une vie impossible ou très difficile. Personne ne parle, quelques copines de ma camarade pleurent. La suite m'a beaucoup impressionné parce que, bien sûr, on est triste, mais après, on se relève tous ensemble et on ne se laisse pas faire. Avec les élèves, parents et profs, on décide qu'on fera tout pour garder Havas et sa famille aux Pays-Bas. Et sa famille n'est pas la seule. Pas moins que 26 000 cas des familles qui habitent plus que 5 ans chez nous et pour qui un retour ne sera pas du tout une certitude de vivre en sécurité étaient présents en 2002. Et il y a des lettres, des soirées, des manifestations, tout a été organisé. Et à la fin de l'année, la bonne nouvelle tombe, Havas et sa famille peuvent rester aux Pays-Bas.
Grâce à la mobilisation des habitants qui ont renversé la décision qui était à la base...
Ce qui est assez fou, hein, si nous on se met tous, mobilise tous ensemble, en fait on peut y arriver, c'est très beau, en même temps c'est bizarre c'est beau, ouais. Que si... on le fait, et s'il y a par exemple des cas pour qui on ne le fait pas, pour eux, ce n'est pas possible, apparemment. Mais cette semaine, 15 ans plus tard, j'ai dû constater que nous n'avons toujours pas avancé dans ce débat, et je trouve ça vraiment incroyable. Cette fois, le gouvernement a encore une fois changé les règles, maintenant concernant un groupe de 700 enfants, que enfants, mais avec leurs parents, bien sûr. Mm-hmm. Mais maintenant, le contexte est différent, parce qu'avec la crise économique, les attentats, un grand nombre de réfugiés, l'opinion publique est beaucoup moins favorable aux Pays-Bas, comme un peu partout, j'imagine. Et il y a la question où héberger ces réfugiés, parce que les Pays-Bas, on a 17 millions d'habitants. C'est un pays...
C'est un petit pays pour 17 millions d'habitants, en tout cas, c'est...
Oui, c'est très peuplé. Et
c'est
dans les
dense.
Grandes... Oui, tout à fait, dense, on peut le dire. Et dans les grandes villes, il n'y a pas de maisons libres. Et quand on donne ces maisons qui restent encore aux réfugiés, ça donne des grands débats pour des personnes, par exemple, les logements sociaux. À Amsterdam, il y a aujourd'hui une liste d'attente de 20 ans.
Ah oui.
Alors, c'est... C'est difficile à expliquer, mais bon, l'alternative est d'envoyer ces gens dans les villages. Et dans les villages, en général, ça veut dire vraiment qu'on envahisse un village. On a eu certains cas avec les personnes qui ont eu aussi... oui, ça donne aussi des problèmes, pas forcément parce que les personnes, on ne les aime pas, mais ça change tout le village. Avec un village avec 1500 habitants et on envoie 800 personnes.
Oui, c'est ça, la moitié, enfin 50% de la population... devient des nouveaux habitants, quoi.
On n'arrive pas à trouver une solution. Aucun gouvernement, depuis 2002, a vraiment voulu prendre parti. Et en fin de compte, il y a toujours le ministre ou secrétaire d'État qui a même un pouvoir exclusif de décider toute seule pour des cas jugés exceptionnels. Comme par exemple le cas de ma camarade. Et ce qui donne encore un espoir aux gens et une responsabilité, selon moi, presque inhumaine au ministre, au secrétaire d'État, parce que, oui, l'influence, la pression qu'on met sur ces gens...
Le sort de la vie de ces gens-là est entre leurs mains, concrètement.
C'est ça, et ce sont souvent... Alors, ces ministres et ces secrétaires sont des personnes jugées assez strictes, mais sur lesquelles on met tant de pression tout le temps. Selon moi, il faut abandonner le plus vite possible ce pouvoir, parce que... Oui, prenons une décision, que ce soit très strict ou pas strict du tout. Évidemment, moi j'ai vu de très près comment ça peut faire mal à quelqu'un, mais je peux comprendre aussi que oui, on peut pas accueillir tout le monde. Et vivre dans l'incertitude, comme ma camarade a eu, c'était un an et demi d'incertitude, oui, ça bouleverse tout.
L'incertitude et l'arbitraire, en fait. C'est ça.
Tout à fait. Mais j'ai pu voir également que si on a le même objectif, beaucoup de choses sont possibles. N'oublions pas qu'on vit ensemble sur ce monde avec beaucoup de peuples et qu'ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. C'est une bonne leçon. Honnêtement, mes premiers trois collèges, au collège lycée aux Pays-Bas, c'est ensemble. Ça m'a énormément marqué. Tout le reste, honnêtement, j'ai oublié. Mais c'est quand même une bonne leçon qu'on a tirée de ces jours. Et...
Donc la mobilisation solidaire est encore possible. En tout cas, c'est un bel exemple.
Et oui, et c'est pour ça que j'ai apporté une musique qui va un peu avec ce message. La chanson s'appelle « Iedereen is van de wereld » de The Scene. « Iedereen is van de wereld », ça veut dire que le monde appartient à tout le monde.
Et bien, on écoute tout de suite.
Iedereen is van de wereld.
Merci, merci, merci Ruben Chinet de t'avoir une expérience à nous faire partager qui semblait ressembler un peu à ce que Ruben nous a raconté.
Oui, non, c'est juste qu'en fait ça m'a rappelé d'une expérience que j'ai eue quand j'étais adolescent et bon, je parle d'une de mes amies, une de mes meilleures amies avec qui je suis toujours en contact. Mais en Irlande, et je vais en parler de ça pendant ma chronique, mais on a un système d'accueil qui est complètement, mais franchement, mais c'est scandaleux. Je crois que dans une vingtaine d'années, tous les politiciens irlandais vont dire qu'en fait, ça, c'était comme les Magdalen Laundries, comme bon, les histoires d'Irlande d'une certaine époque. Et du coup, quand les gens arrivent, ils sont mis à part de la société, ils sont ensemble et leurs dossiers ne sont pas traités. Ça prend des années, des années. Et du coup, une de mes meilleures amies à l'école secondaire, en fait, elle a été mise dans une centre d'accueil à 8 ans. Et moi, je suis arrivée en Irlande avec ma famille à 9 ans. Okay? Mm-hmm. Donc, on est arrivés plus ou moins à même moment. Et ça m'a pris des années à comprendre, en fait, qu'elle n'avait pas les mêmes droits que moi. Mm-hmm. Et parce qu'elle ne parlait pas trop, parce que bon, ce n'est pas une histoire très simple partagée, que tu étais dans une chambre d'hôtel avec tes parents pendant des années, mm-hmm. mais la même chambre d'hôtel et tout ça. Et même à 18 ans, et c'est ça qui m'a vraiment marquée, elle a eu des très 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 bonnes notes. Parce qu'on a le droit à rentrer dans le système national, elle a été dans le top 5% de mm-hmm. pays, quoi. Mais elle a été magnifique. Et elle a...
Malgré ça.
Pardon. Et malgré ça, ouais. Oui, alors moi je suis rentrée le premier jour de la fac Trinity College à Dublin, une fac très prestigieuse, tu sais, j'étais très fière de moi-même. Ah, mais c'est génial. Et j'ai vu le nom de mon amie sur la liste et elle n'était pas là. Du coup, elle est bien rentrée dans le fac. Bah, elle a été acceptée.
Mais elle n'est pas rentrée dans l'université.
Oui, parce qu'à cause de son dossier, elle a été traitée comme une étudiante étrangère avec des frais d'inscription de 16 000 euros par an. Qu'elle pourrait pas payer,
élevé, d'accord, okay.
Parce que ses parents étaient encore,
sans
je
avoir
crois,
la possibilité d'avoir de bourse. Donc pendant 10 ans, vous avez suivi la même scolarité, oui. Et en entrant à l'université, même si c'était une des meilleures élèves, elle a pas pu
suivre
des cours à cause du coût.
Oui, parce que pour moi, les frais, pour tous les Européennes en Irlande, les frais c'est 3 000 euros par an. Donc déjà c'est plus, okay. plus que la France, on en parle un autre jour.
Oui, oui.
Mais pour elle, c'était 3-4 fois le, c'était impossible. Et donc c'était quelqu'un de très motivé.
C'est un peu différent parce que c'est une camarade que tu as eue pendant de nombreuses années, mmh. et même à travers l'adolescence et même presque jusqu'à 18 ans en fait. Oui. Et à partir de là, elle a dû changer d'école parce qu'elle n'a pas pu suivre l'université.
En fait, elle n'est pas pu aller à l'université. Donc bon, maintenant ça va, ça fait 5 ou 6 ans maintenant et elle suit des études, mais bon, elle a été... Elle a
mis sur la touche pendant un moment, quoi.
Ouais.
On répondit
ouais.
encore sur l'éducation de la semaine
c'est
dernière.
C'est ça, exactement, le thème de la semaine dernière avec l'école. Ouais. Carla, tu voulais réagir aussi. Tu voulais réagir aussi sur.
Oui, non, je voulais juste rappeler un chiffre. C'est qu'au Liban, ils sont 4 millions d'habitants et ils accueillent 1 million de réfugiés. Ça veut dire qu'ils accueillent un quart de leur population. C'est comme si la France accueillait 17 millions de réfugiés. On est loin de ces chiffres. Et je pense que. Voilà, c'est pas vrai qu'on peut pas accueillir tout le monde. En fait, ils nous font croire parce que politiquement, on a besoin d'un bouc émissaire, on a besoin d'un problème. Mais je pense qu'au fond de tous, tout le monde, au fond de son cœur, c'est qu'accueillir les personnes, déjà, c'est pas nous qu'on doit décider des personnes, tout ça. Bien sûr, il faut s'organiser, il faut essayer bien de vivre ensemble. Mais quant à la campagne qui se vide, la présence humaine ne peut que relancer les activités. Voilà, c'est ce qui se passe en Italie, à Riace, c'est ce qui s'est passé pendant 20 ans. Le village était vide grâce à la présence des réfugiés. Ils ont recréé une vie. Voilà, là, grâce à notre fantastique politique de Matteo Salvini et du gouvernement précédent aussi, pour être sincère, là, tout est arrêté. Les réfugiés qui, ça fait des années, habitent là. On ne sait pas où ils vont les réenvoyer dans des centres d'accueil. Ils vont recommencer à partir partir de la case du départ, alors qu'il a, ils avaient construit une vie. Moi, je trouve juste que cette ingérence qu'on a, cette espèce de d'arrogance qu'on a de pouvoir gérer les vies de gens, je la trouve vraiment juste, bon, scandaleuse, quoi. Mmh, voilà, c'est juste ça.
Magnifique film d'ailleurs, hein, sur Riach. J'ai maintenant pas le nom dans ma tête, mais il y a vraiment une...
Le vol, le film de Wim Wenders.
Non, c'est un film sur Riach, sur ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé. Wenders, on va le trouver.
On va regarder ça.
On va trouver ça tout à l'heure. Non, mais bien sûr, on peut toujours. Le problème, c'est qu'on veut pas.
J'ai juste une petite remarque, peut-être, c'est que le débat, ce que fait aussi, c'est pas exactement qu'on peut pas cuire tout le monde, c'est que les gens disent qu'on s'occupe déjà pas bien des gens qui sont dans le pays,
c'est
des nationaux. Et pourquoi on doit s'occuper au coup de...
Oui. Bah, parce qu'on exploite leur pays et ils sont obligés de les quitter. Parce que comme ça, nous, on peut avoir plein d'or et de pétrole et d'uranium et des portables sur nos bureaux.
On peut aller encore beaucoup plus loin. On peut encore aller beaucoup plus loin.
Ouais, c'est la mondialisation, finalement, économique. Et pourtant, les humains n'ont pas le droit de se déplacer librement et de façon égale. Tous.
Alors que l'argent, oui.
L'argent.
Non, mais surtout ce que j'ai voulu dire avec cette histoire, c'est que moi, évidemment, si moi je peux accueillir tout le monde, je le ferai direct. Le problème, c'est, et ça, je suis assez réaliste pour le savoir, c'est que les gens pensent d'abord à eux-mêmes et pas aux autres. Et aux Pays-Bas, c'est pas une exception.
Oui, puis il y avait un truc qui était intéressant dans ce que tu disais, Ruben, c'est que la mobilisation des gens, c'est de la communauté, c'est fait ensemble, des habitants. Oui. Et ça, pour retrouver une mobilisation collective, pour que le peuple, enfin que les humains, au-delà des politiques et tout ça, se disent, on va tous dire, ok, on est pour les réfugiés, il n'y a pas de problème, on se mobilise pour les accueillir. Avant d'en arriver là, c'est compliqué de mobiliser les gens, je crois, aujourd'hui, de façon solidaire et durablement. Et peut-être pas tant que ça.
Non, bon, on verra. Hein. On a eu encore des cas récemment. Avec, c'était des familles chez nous, c'était des familles arméniennes. Je ne sais pas pourquoi c'était l'Arménie tellement en avant, parce que ce n'est pas le pays où il y a le plus de catastrophes en ce moment, on va dire comme ça. Mais là, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Mais bien sûr, il faut pas, le débat ne devrait pas exister. Mais le problème, c'est où trouver un type de loi même peut-être européen, qui dépasse tout ça.
C'est
ça. Sauf qu'on arrive avec certains pays, certains gouvernements, où on construit des murs autour de...
Oui, les pays ne sont pas d'accord entre eux déjà, donc pour faire une loi supranationale, c'est compliqué. Quoi.
Je voulais juste encore, pour ce que dit Sinead, ma camarade, c'était aussi la même chose, sauf que, heureusement, elle était traitée comme une Irlandaise, alors elle a pu faire tout, mais... 5%, je dirais même, elle était dans le meilleur 1%. Alors, c'était vraiment la maintenant dentiste quelque part aux Pays-Bas. Et très bien, très bien.
En tout cas, vous êtes bien inspiré par le thème du jour. Là, il y a plein de conversations qui émergent. On va partir en Italie avec Carla pour que tu nous racontes un petit peu ton expérience et ce que tu as vécu.
Alors, quand je me suis installée à Paris, il y a quelques années, grâce à l'espace Schengen, j'avais la chance de pouvoir vivre mon rêve, être comédienne en France. Et j'ai écrit un spectacle où j'ai déclaré mon amour à la France. Alors, après quelques temps, je suis tombée sur une image des migrants qui traversaient la frontière en décembre 2017 entre Bardonecchia et Briançon, mise à côté d'une autre image des migrants italiens qui traversaient la même frontière, mais en 1946. Alors dans ma tête, j'ai pensé aussi à moi, traversant la frontière, entrant pleine d'espoir et de peur aussi. Quelle était la différence? Bon, apparemment aucune. Hein. Pour mon nouveau spectacle, alors je me suis dit, je devais parler de ça. Non mais c'était vraiment une évidence
dans ma
tête.
Et alors comment tu t'en es prise pour écrire ce nouveau spectacle?
Alors d'abord, bon, je marche comme ça, je me suis documentée, j'ai rencontré une macroéconomiste française qui m'a expliqué ses études sur les flux migratoires. J'ai lu un tas de bouquins, mais je me suis vite rendu compte qu'étudier c'était pas suffisant, qu'on peut pas parler de ça en regardant de loin. Et le hasard m'avait fait rencontrer encore une fois la bonne personne, Enzo Mauro, c'est un éducateur qui travaille dans un centre d'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile et mineurs à Caltagirone en Sicile. Ça s'appelle le SPRAR. Et je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose. Et en 3 jours, on a organisé la première édition de l'atelier de théâtre « Nous ne sommes pas des arbres ». Tu vois, à l'italienne, pas comme en France. « Oui, il faut remplir les formulaires B4 ». En 3 jours, on a organisé tout ça. « Tu veux venir faire un truc ?» Bah, tu viens, allez. 5 jours de jeu théâtral pensé pour faire rencontrer les jeunes demandeurs d'asile avec les citoyens de la ville de Caltagirone dans un contexte différent, avec des outils particuliers, dans un espace-temps où il n'est pas grave si tout le monde ne parle pas la même langue parce qu'un langage nouveau est en train de se créer. Alors, certains jeunes m'ont raconté l'histoire de leur voyage, mais moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le futur, sur la possibilité, sur l'espoir et la page blanche. C'est comme ça que j'ai rencontré Adam qui m'a raconté qu'il voulait faire le médecin, Sila aussi qui voulait faire le médecin, Lanzine qui voulait devenir footballeur, et tout le monde a un rêve en commun, c'est étudier. Je me dis qu'on ne peut pas partager la charge des souffrances que ces jeunes hommes ont vécues. On peut juste choisir de partager un avenir plein de projets, des dialogues, de mélanges et des communications.
C'est là qu'ils t'ont le plus surpris, finalement.
Voilà, parce que, entre autres, on a construit des marionnettes avec des chaussettes et des boutons de chemise. Mmh. Après, je suis partie. Et après quelques mois, Enzo me montre une vidéo d'un véritable spectacle de marionnettes réalisé par eux-mêmes, les jeunes demandeurs d'asile, avec des lycéens de Caltagirone qui ont écrit et mis en scène une histoire, le titre « Le sentier du bonheur ». Et ensemble, ils ont fait plusieurs représentations dans la place principale de Caltagirone, dans des écoles primaires. Et
alors, qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, se réfugier ?
Ben, ça veut dire... selon cette expérience, trouver un réconfort, intercommuniquer, créer et inventer. Et alors là, je me serais arrêtée là, sauf que hier soir, j'ai ouvert les réseaux sociaux et je suis tombée sur la photo de Prince Géry. Cherchez-la, vous aussi, c'est facile. Il sourit, Prince Géry, dans cette photo. Et par-dessus, c'était marqué en italien. J'ai traduit pour vous plus ou moins fidèlement les paroles de Carmine Monaco. Regardez la beauté de ce sourire. Il est un garçon de 25 ans qui s'est suicidé sous un train. Il avait une licence en chimie et il étudiait sans arrêt pour se faire reconnaître sa licence en Italie. Le 17 décembre, a perdu son titre de séjour et ce garçon, diplômé et honnête, n'a plus pu accéder à l'Institut du permis humanitaire. Tous les sacrifices faits ont disparu en un instant et il n'a pas pu se résister et il s'est retiré la vie. Il s'appelait Prince Géry. Et alors là, je pense à tous les diplômés italiens à l'étranger, à tous les diplômés européens à l'étranger aussi, qui ont fait quelque chose de bien pour les pays qui l'ont accueilli. Et je pense à ce qu'il aurait pu faire de bon pour l'Italie. Mais peut-être juste une chose normale, hein, juste une chose honnête. Tout ça est avec lui sous le train à cause des lois racistes, notamment les lois racistes italiennes, et à cause de l'indifférence. Toute cette guerre des riches contre pauvres, d'Européens contre étrangers, toute cette guerre fait pour gagner une campagne électorale qui a fait déjà beaucoup de morts en Libye, en mer, sur les Alpes, en Italie, en France. Toute cette haine, c'est insensé, féroce et aveugle et ne peut que se terminer qu'avec un conflit, on le sait. Les chefs d'orchestre sont bien préparés, ça fait des années qu'ils se préparent, pas nous. Nous ne sommes pas du tout préparés parce que nous croyons aux lois et aux institutions démocratiques, à l'humanité, à la paix, à la culture, aux droits de l'homme, à la cohabitation et aux marionnettes. Et c'est pour ça qu'on va gagner encore une fois, aussi pour Prince Géry. Quand vous trouvez la photo, regardez bien ses sourires, regardez-le, encore une fois.
Bon, on regardera cette photo. Est-ce que tu as une musique
oui.
pour alléger cet engagement?
On a, bah oui, bien sûr, c'est la Guerra di Piero de Fabrizio De André.
On écoute tout de suite.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Merci pour cette musique, Carla. Ruben, tu as une information. Alors déjà,
on a trouvé le nom du film.
C'est ça.
Ah. Paesi di Calabria. Ah. Je conseille fortement. C'est vraiment un très très beau film.
Ça s'appelle comment, tu m'as dit?
Paese, P-A-E-S-E, di Calabria. Okay. Calabria comme la région. Et bon, c'est plutôt un documentaire, mais c'est vraiment c'est impressionnant. C'est bien fait.
Bon, ira voir.
Bien filmé, très très bien.
Et tu voulais rebondir par rapport à la chronique, tu avais une bon, réaction par rapport à ça
de, je me de demande Carla. Surtout, quand on appelle quelqu'un un réfugié et quand c'est un demandeur d'asile, je pense que ça c'est quand même important dans, dans notre discussion, discussion d'aujourd'hui. Je pense, oui, quelle est exactement la différence?
C'est ça.
Et qui décide ça? Pourquoi c'est nous les riches européens qu'on doit décider
tout à fait, ouais.
qui est réfugié?
La différence entre réfugié et demandeur d'asile?
Non, la différence entre le réfugié et le demandeur d'asile, c'est que le demandeur d'asile, il est en train d'attendre la bureaucratie. Mm-hmm. Quand il a déjà fait un parcours de combattant absurde pour déposer sa demande d'asile, ou s'il n'est pas aidé, il mm-hmm. fait carrément une dépression, c'est évident. Quand tu es demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de travailler. Donc déjà, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est...
Ça peut être une période assez longue, en fait, la période de demandeur d'asile.
Ça peut être quelques jours, plusieurs mois, ça dépend.
Des années.
Chez nous, hein. Ouais, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, pays, ça dépend. Et après, la chose, c'est que dans cette étude que moi, j'ai étudiée, qui a été faite par Ekram Bouptani, elle s'appelle, et a été publiée sur Science Advanced, c'est ce qu'on voit, c'est que le demandeur d'asile, tant qu'il arrive dans les pays européens, il n'a pas d'effet négatif sur l'économie, l'effet devient positif quand lui il obtient enfin l'asile et donc il peut enfin commencer à travailler. S'il n'obtient pas l'asile, effectivement il doit être répatrié soit par le moyen de l'État, soit par ses propres moyens. Mais voilà, parfois on donne l'asile à certains États qui sont en guerre où tu ne peux pas exprimer ton opinion politique. Mais moi je pense qu'on est tous au courant qu'il y a pas mal d'États où il n'y a pas de guerre, mais où les pays européens, pour gérer leurs intérêts, gèrent aussi le gouvernement, où c'est les pays restent dans un état de sous-développement, et donc toi, tu as le droit de vouloir rêver, comme moi, je rêve d'être comédienne en France, quelqu'un peut rêver d'être venir médecin en Europe parce que c'est mieux. Et je pense que voilà, s'ils te donnent pas le visa, parce que pour moi, ils te donnent plus les visas. Et si maintenant en France, par exemple, étudier à l'université pour si tu n'es pas ressortissant de l'économie européenne, ça te coûte 3000 euros par an maintenant, alors que avant ça coûtait 300 euros. Bah, je pense que là, on est vraiment en train de dire, tu vois, de s'effermer, de s'effermer, de s'effermer, de décider de l'avenir des êtres humains un peu arbitrairement, moi, je trouve.
Oui. D'autres réactions par rapport à ça ? Nous, on est sur le thème, on était plutôt sur l'insertion des réfugiés, donc on est à l'étape, finalement, après l'étape de demande d'asile. Mais c'est vrai que finalement, si la demande d'asile est une période très longue, on pourrait se poser déjà la question de l'insertion des demandeurs d'asile. Et ensuite, passer à l'insertion des réfugiés. Oui.
Oui, parce que c'est vrai que bon, bientôt, quand je fais ma chronique, je vais plutôt parler des demandeurs d'asile. En fait, j'ai fait un peu la différence entre les deux. Mais,
d'accord, tu veux en parler.
Oui, mais c'est juste, il y a une chose dans la chronique de Carla qui m'a beaucoup intéressée aussi, parce qu'elle avait parlé de quelqu'un qui avait une licence qui n'a pas été reconnue en Italie. Et je sais que ça, c'est un grand problème pour pas que des réfugiés, mais pour bon. En notre monde en général, il y a beaucoup des gens maintenant qui bougent, qui voyagent et qui veulent travailler dans d'autres pays. Et c'est juste intéressant parce que je sais que UNESCO fait un travail en ce moment sur une convention sur les qualifications globales d'éducation supérieure et tout ça. Et jusqu'ici, je crois qu'il y a pas mal de pays européens qui s'intéressent parce que pour leurs jeunes diplômés, c'est bien pratique pour que les choses soient reconnues partout, mais c'est vrai que c'est très important pour des réfugiés, pour des gens qui changent de qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent en Europe ou qui viennent de l'Afrique et qui arrivent en Europe, que c'est quelque chose qui n'est pas très bien mis en place, mais le moment voilà que ton demande est bien acceptée, que tu peux travailler à ce moment-là si il y a un système de reconnaître les qualifications, ça, tu peux donner quelque chose à la société. C'est et ça, si ça prend des années, c'est vrai qu'en fait, c'est la société d'accueil qui perd en fait la valeur de cette personne.
Et, j'ai vu plusieurs documentaires ou reportages sur des médecins, par exemple des médecins syriens qui arrivent en France et qui ont toutes les qualités pour être des très bons médecins et finalement qui se retrouvent infirmiers. Et forcément, ça devient des super infirmiers parce qu'ils ont un bien meilleur niveau de qualification que n'importe qui. Quoi.
Ouais.
Les médecins, oui.
Et ça peut être compliqué dans le domaine de médecin, parce que je sais que même pour des infirmières d'Irlande ou j'ai une amie de Londres en fait qui peut pas travailler en tant qu'infirmière ici en France parce qu'elle a eu un cursus un peu différent, elle s'est spécialisée d'une façon qu'on fait pas en France.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est très très difficile de dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent des pays avec des super bonnes qualifications et qui peuvent faire des belles choses et qui veulent le faire aussi.
Hein. Même en Europe, hein, c'est ça. Ouais. Après, évidemment, plus loin que l'Europe, c'est encore plus compliqué ici avec toutes ces crédits, les ECTS. Pour la licence, ça va encore, mais surtout après, par exemple en France, tu as Master 1, Master 2. Aux Pays-Bas, tu n'as pas du tout ça. Par exemple, moi, mon Master 1 français, ça vale 0 aux Pays-Bas. C'est peut-être pour ça que je suis encore là, mais... ouais. Non, mais après, ça, ce sont des petites histoires, mais ce que tu dis, c'est complètement vrai, et surtout dans quelque chose si important que des hôpitaux et tout ça. Oui, bien sûr, tu veux des gens qui sont bien qualifiés, mais bon, si on n'arrive pas à bien égaliser toutes les différentes formations, c'est le début, quoi.
Ouais. Et je veux juste dire, bon, je sais qu'il y a une différence entre une infirmière qui vient de Londres, qui doit travailler dans un autre domaine à Paris, que quelqu'un qui vient de la Syrie, qui, bon, on s'en fiche de mon amie de Londres, elle peut faire autre chose, mais c'est juste, c'est très important pour l'individu soi-même, pour se sentir utile à un certain moment, pour les sociétés aussi. Et je trouve que pour moi, en Irlande, ça a aidé à encourager, pour que les gens soient pour des réfugiés, quand les gens ont bien expliqué, bah, ce sont des personnes qui viennent, ça peut être des personnes qui viennent avec des qualifications, qui peuvent être utiles dans la société, et bon, c'est juste ces questions de politique dans les journaux et tout ça, c'est quelque chose qui marche un peu.
On va enchaîner avec la... Alors, vous êtes très, très bavard sur ce sujet. Donc, c'est positif, mais l'émission déroule. Et on va enchaîner tout de suite avec la chronique suivante, puisqu'on part en Lituanie avec Ruta.
Je sais que nous avons tous probablement entendu parler des grosses, grosses polémiques sur les réfugiés qui ont eu lieu dans les pays bien connus pour leur hostilité vis-à-vis des migrants. et je parle surtout de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie, et notamment ce discours effrayant de l'un des membres polonais du Parlement européen, en plein milieu de la crise migratoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, qui est toujours avec un papillon, qui a des propos sexistes, racistes et homophobes.
Non.
Regardez, regardez pas. Des propos vraiment effrayants. Et dans ce contexte-là, on peut se demander où se situe la Lituanie, surtout quand on la met souvent dans le même panier avec tous ces pays de l'Est. Je sais que le positionnement des Lituaniens n'est pas clair, mais avant de parler de la situation actuelle, je veux revenir un peu en arrière et vous montrer comment une telle crise comme les crises migratoires d'aujourd'hui aurait été traitée en Lituanie de Moyen-Âge.
Alors, le Moyen-Âge est souvent associé au comportement barbare. C'est ça dont tu vas nous parler en Lituanie.
Et non,
vous n'étiez pas des barbares.
C'était bien le contraire à l'époque chez nous. C'est la Lituanie à cette époque-là où, plus précisément, le grand-duché de Lituanie s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire, pour vous donner une idée de la grandeur de ce pays. Et ce n'était pas une version agrandie de l'actuelle Lituanie bien lituanienne. Ça veut dire que ces territoires ne nous appartenaient pas, mais ils étaient annexés au cours du temps. Mmh. Et la caractéristique clé qui a fait fonctionner cet empire, c'était justement la tolérance et l'autonomie des minorités. C'est aussi pour ça que la majorité des villes annexées n'ont jamais été défaites, mais ont accepté d'être partie de ce grand duché de la Lituanie et intégrées dans le territoire en même temps. Mais encore, en plus de cette tolérance complètement impensable à l'époque, les grands ducs qui dirigeaient la Lituanie avaient pour objectif d'inviter les gens de toutes les religions et de toutes les ethnies à venir vivre là-bas.
D'accord, donc la diversité dans le...
Avant tout.
D'accord, ok.
En Moyen-Âge.
Wow.
Et comme de base, on comptait que quelques millions d'habitants, on ne se marchait pas sous les pieds et il y avait de la place pour tout le monde. Il s'agissait d'un ensemble multiethnique où on trouvait un grand nombre de Polonais, de Juifs, de Tartares, de Karaïmes. Et c'est cette multitude des religions et des ethnicités vivaient tous tranquillement sous le même toit.
Et comment ils ont fait pour fonctionner, enfin une société ouverte et tolérante, comment ça fonctionne à l'époque des barbares, du Moyen-Âge plutôt?
C'était grâce au plan constitutionnel et sa forme politique. C'était une sorte de grande fédération médiévale. Le plus intéressant, c'est que le système légal était très avancé avec des institutions qu'on peut qualifier pré-démocratiques. Tout ce qui est le respect des minorités, l'autonomie, la préservation des droits individuels aussi. Mmh. On peut dire même que certaines entités médiévales étaient plus avancées et progressistes qu'actuellement en termes de droits des minorités.
Et il nous reste des choses de cette société lituanienne et médiévale aujourd'hui ?
Si on revient au moment présent, la situation est bien différente, bien sûr. Dans la Lituanie actuelle, on ne peut pas parler de même société tolérante et ouverte. Je sais que le pays est divisé en deux parties j'ai envie de dire plus ou moins égal, mais je sais qu'au fond, il y a plus des gens qui ont ce genre de mépris ou certaines méfiances envers les réfugiés. Mmh. Les partis politiques sont également divisés autant que la société elle-même. Et il est important de dire qu'actuellement, chez nous, il reste très peu de réfugiés.
Oui, parce que c'est le sujet à la base. Tu en as peu parlé, mais finalement, aujourd'hui, où en est la Lituanie vis-à-vis des réfugiés, quoi?
Ouais, donc il n'y a pas beaucoup chez nous parce que, en termes de quotas, comme les Lituaniens ne sont pas nombreux, on n'a pas accueilli beaucoup. Mais deux aussi, parce que la Lituanie n'est pas vraiment une destination de rêve des demandeurs d'asile, des réfugiés. C'est que les aides sociales accordées ne sont pas vraiment élevées. Il suffit seulement pour les dépenses les plus nécessaires et pour la période très courte. Parce qu'après 6 mois, les aides sont divisées par deux. Mmh. En gros, si tu n'arrives pas à trouver le travail ou t'intégrer, c'est pas suffisant pour vivre.
D'accord.
Et même si la réponse politique de la Lituanie à la Commission européenne se durcit de plus en plus, malheureusement, et se rapproche de plus en plus de la position comme la Pologne ou la République tchèque, à l'époque, la présidente a exprimé son avis disant que la Lituanie a été sûrement capable et prête d'accepter plus de réfugiés. Et je veux justement finir avec cette note positive, qu'on est vraiment capable d'accepter beaucoup plus.
Très bien. Est-ce que tu as une musique à nous faire écouter pour ponctuer tout ça?
C'est une chanson un peu drôle, c'est plutôt pour mettre l'ambiance.
Ah, la ça y est, tu vas relancer l'ambiance.
La chanson s'appelle Ufonautei.
Oui.
Ça veut dire les objets volants non identifiés.
Très bien prononcé.
C'est un peu pour se moquer de ces gens-là qui ont peur de l'inconnu. Les gens qui viennent. Les gens pensent que ces gens viennent de nulle part, on ne les connaît pas, on les méprise, mais en fait, faut pas.
Alors, Ufonautei, c'est ça?
Ufonautei.
On écoute tout de suite.
Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie penkto namo
Pasigirdo galvoje keistas balsas lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų ir tas balsas jam pasakė nuo likimo nėr vaistų. Ajaja. Ojojojoj. Hei, hei, hei. Na, 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 na. Atėjo pas būrėją, sako, kortas man išmesk. Pasakyk man, mano fėja, ką mylėti ir ko nekest. Ta iš būrėją ant pirštų, sako, poveriai prasti. Bet jei tu save pamirštum, išsigelbėti gali. Ai, 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 kaip tik kiti ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj. Hei, 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 kaip žiūri, taip ir matai. Ufonautai nusileido mano kiemo pakrašty. Jie visi tokie be veido ir be nuotaikos visi. Bet jų tarpe buvo vienas toks intelektualus. Ir tas vienas man pasakė, ko bijosi tas ir bus. Ai, 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 kaip tiki, taip ir yra. Oi, 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 įsitikinsi rytoj.
Merci pour ce message de tolérance qui nous vient tout droit de la Lituanie du Moyen-Âge. Comme quoi c'est possible et qu'ils l'ont fait, on peut le refaire. On va partir tout de suite en Irlande avec Sinead.
Alors, j'ai quelques exemples des bonnes choses qui se passent en Irlande, des initiatives qui sont très, vraiment très belles. Mais avant que je vous explique ça, il faut quand même que je vous donne les grandes lignes de la situation actuelle en Irlande. Donc, comme j'avais indiqué avant, je voulais juste faire un peu le point entre les demandeurs d'asile et les réfugiés en Irlande. Donc, pour moi, la grande scandale, parce que bien sûr, dans ce thème, ce sujet, c'est presque toujours un scandale, c'est que les demandeurs d'asile sont mis un peu à part de la société dans les centres d'accueil. Du coup, c'est un centre de provision directe. Tout est fourni par l'État, les personnes n'ont pas le droit de travailler, ni le droit de cuisiner pour eux-mêmes. Ils sont mis dans des anciens hôtels de tigres celtiques qui sont devenus des centres d'accueil pour des familles, des personnes handicapées, des personnes âgées. Bon, c'est bien compliqué, comme j'avais indiqué. J'ai une amie qui était dans une chambre avec ses parents, qui peut être très difficile pour une jeune fille qui veut avoir son intimité, par exemple. Bon, c'est bien compliqué. On a 34 de ces centres en Irlande. La plupart n'ont pas été construits pour cette raison, en fait. Ce sont juste des grands, grands, grands bâtiments qui ont été pris et qui ont été mis à cet service. Et ils sont gérés par des intérêts privés.
Donc voilà, l'État n'interagit pas dans ces organisations.
En fait, mais c'est compliqué. En fait, l'État a un rôle plutôt supervision. Est-ce que tout se passe bien? Mais ils sont très, très, très limités. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que l'État ne veut pas s'impliquer dans ce truc-là. Et le fait que ce sont des intérêts privés, ils sont construits d'une certaine façon pour qu'on ne puisse pas demander, vérifier leur profit. Tu gagnes combien parce que tu gères 3 ou 4 centres d'accueil, tu vois, c'est quelque chose qui est très opaque, très difficile à comprendre, en fait. Mais on sait bien, en Irlande maintenant, on s'agit, il y a des manifs, on essaie de changer, ça prend du temps, mais on sait bien qu'il y a des personnes qui gagnent des millions d'euros, qui gèrent ces centres d'accueil, mais comme j'avais dit, les personnes n'ont pas le droit, par exemple, de cuisiner pour eux-mêmes, donc peut-être qu'ils sont dans un hôtel, il y a une cuisine. La cuisine, ça se fait 3 fois par jour pendant des heures très fixes. Du coup, si tu veux étudier, si tu veux faire autre chose, tu peux pas, tu dois être là pour manger, sinon tu manges pas. Ou ce sont la nourriture qui n'est pas... Bon, si tu as des restrictions alimentaires, des restrictions religieuses, tu peux pas gérer tes propres repas. Et si c'était bien une mesure d'urgence, parce que ça a été mis en place en 1999 en tant que mesure d'urgence. Sauf que maintenant, ça fait 20 ans et on a toujours le même système. Et ok, c'est une urgence, mais ça... Bon, et c'est le même système. Et en plus, c'est pas que les gens y restent 6 mois
ou même 9 mois. Mais il y a beaucoup de gens qui passent 4 ou 5 ans. Donc 4 ou 5 ans, si tu as des enfants, tu es dans la même chambre, et par exemple, tu as un enfant qui prépare l'équivalent du bac ou de brevet, bah, on étudie où qu'on a 4 personnes dans la même chambre. Ou s'il y a quelqu'un qui s'est fait des amis à l'école avec des potes irlandais, bah, c'est difficile d'inviter des potes. Oui, bah, c'est juste que ça bloque la vie, quoi. Bah, on est en limbo pendant des années, des années. Mmh. Et à la fin de tout ça, tu peux être bien sûr répatrié chez toi, quoi. Bah, c'est le moment où les dossiers sont traités. Et bon, du coup, il y a tout un système en Irlande, bah, toute une manif. Il y a un mouvement social pour améliorer les conditions et pour changer cette situation, parce que souvent ces centres d'accueil sont dans des villages ou à la campagne, mais loin, peut-être sur une autoroute ou quelque chose. Du coup, c'est difficile pour les gens de s'intégrer dans la communauté locale. Et bon, il y a plein de questions par rapport à ce système. Mais un des grands problèmes, c'est la nourriture. Et du coup, je voulais juste vous parler des deux initiatives assez positives là-dessus, que moi j'ai trouvé que c'était très, très beau. Ouais.
Positivons.
Oui, quelque chose de joli.
Donne-nous ces initiatives positives.
Alors, une, ça a été à Sligo. Et donc, Sligo, c'est une ville de 20 000 habitants. Mm-hmm. OK? C'est côté ouest, Atlantique, c'est loin de Dublin, des centres de la culture, les grandes villes d'Irlande. Bon, on a la même chose qu'en France, on dit que les gens viennent de Dublin sont pas très ouverts d'esprit, tout ça, nan, nan, nan. Mais en fait, dans cette ville, c'était très beau. Les artistes qui gèrent un centre d'art là, ils se sont dit, bah, pourquoi pas utiliser la cuisine industrielle, faire venir les gens de ces centres d'accueil. Et en fait, maintenant, et ça fait depuis 4-5 ans, ils font des repas communauté là.
Et à Sligo.
À Sligo, oui, okay. Et parce qu'il y a un centre de provision direct là.
Okay.
Et du coup, ça donne une occasion à ces gens-là de préparer ses propres repas pour les parents, peuvent montrer à leurs enfants leur cuisine. C'est pas que des patates qui se mangent. Bon, je sais pas, ceux qui mangent la cuisine industrielle, ça, ils peuvent mettre ça à part et cuisiner leurs propres repas, partager ça avec des autres demandeurs d'asile, mais aussi les gens de la communauté. Donc, c'est un moyen de
faire découvrir leur cuisine.
Oui, oui. Et moi, je trouve que bon, la cuisine, c'est un vecteur de la culture, d'identité. C'est quelque chose de très fort, en fait. Et souvent, on est très curieux, les recettes d'autres personnes et tout ça. Et du coup, ça met les gens, ça les rend un peu plus égaux, en fait. Tu vois, bah, on peut partager les recettes, poser des questions, on respecte les personnes parce qu'ils ont une skill, ils ont un truc à faire, ils ont une
qualité à partager, un savoir à partager, donc on respecte ce savoir et en fait, c'est comme on est tous les ignorants du savoir de l'autre, et ben on est tous en découverte des uns des autres.
Ouais,
et très belle initiative.
Ouais. Et ça, on a une initiative assez similaire à Dublin aussi, mais qui a été menée entre... alors, j'ai le nom quelque part. Alors, c'est Ellie Kizyombe et Michelle Darmody. Donc, Ellie, elle vient de Malawi et Michelle, elle est irlandaise. Et ensemble, ils ont créé une initiative Our Table, donc notre table, qui gère des cafés éphémères, en fait. Ça a commencé à Dublin, mais maintenant, c'est partout en Irlande. Il y a des festivals et tout ça. Et c'est plus ou moins la même idée, mais les personnes qui créent les repas, ce sont des demandes d'asile ou des réfugiés. Bon, c'est avec des réfugiés aussi.
Dans des cafés éphémères.
Dans des cafés éphémères, oui. Et dans des lieux comme les musées, et, des centres d'art aussi.
D'accord.
Ou des cafés très éphémères dans certaines églises aussi, ils ont fait ça.
Ah oui.
Oui. Et en fait, l'idée, c'est que eux, ils ont une but assez politique. Ils veulent que ce système, que ça s'arrête. Les deux, elles veulent montrer que voilà, c'est un manque de dignité d'obliger pour que les gens puissent pas préparer leur propre nourriture pendant des années, des années. Et ce qui est bien aussi, qu'ils prennent l'occasion de montrer aux gens qui préparent la cuisine d'autres moyens de cuisiner, tout ça, de leur donner les bases pour qu'ils puissent trouver du travail après dans la restauration en Irlande.
Et on est en Irlande, on peut les trouver, ces cafés éphémères, quelque part?
Oui, oui, en fait, ils ont une page Facebook qui est franchement magnifique. Mon ami m'a montré quand j'étais à Dublin, que j'adore. Et, mais c'est tout là, fab.
C'est quoi le nom de la page Facebook?
Our Table.
Our Table.
Je crois que c'est Our Table Dublin. Mais maintenant, c'est partout en Irlande. Ça, c'est vraiment très cool. Là. Et c'est positif et c'est bon.
Vous savez qu'on peut le trouver aussi juste derrière le coin, là. Il y a des réfugiés qui vont en manger au Grand Contrôle.
Au Grand Contrôle, j'y pensais aussi. Oui. C'est un peu le principe de ce qui se passe au Grand Contrôle aussi.
S'ils nous écoutent, on les salue. Hein.
On les salue.
À l'autre bout de là.
C'est marrant, c'est le même principe Grand Contrôle quand tu parlais des cafés éphémères. Je me suis dit, c'est un peu.
Oui, je voulais faire le lien, mais oui.
Mais c'est vrai que Grand Contrôle, c'est plus éphémère puisque c'est toute l'année maintenant. Tu as une musique pour ponctuer ta chronique?
Oui. C'est une musique que j'aime beaucoup. C'est Hozier. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est. Bon, il est irlandais et. Oui, c'est très sincère. C'est une chanson de la manif, changement social et tout ça. J'aime beaucoup. C'est Nina Cried Power.
On écoute tout de suite.
It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. The shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing.
Chanel pour cette musique. On va faire le petit jeu pour terminer tout de suite parce qu'on est en fait bien en retard. Je vais vous dire des proverbes qui viennent de pays européens qui ne sont pas représentés autour de cette table et vous allez devoir deviner les pays de provenance de ces proverbes. Alors le premier, si tu vas en guerre, prie une fois. Si tu vas en mer, prie deux fois. Si tu vas en mariage, prie trois fois.
Ça aurait dû être italien, mais c'est pas vrai alors.
Non, espagnol,
italien,
Pologne.
Pologne, exactement.
Je me suis dit, c'est un pays catholique, donc.
Ouais, wow, bien joué. Tu as tout de suite senti la Pologne, bien vu. Deuxième proverbe, qui sème l'argent récolte la pauvreté. Ting, ting, ting. À votre avis.
Angleterre.
Non, c'est pas l'Angleterre, non plus. Qui sème l'argent
Allemand
récolte la pauvreté. Non, 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 non.
C'est pas la Suisse.
C'est pas la Suisse, non.
C'est l'Autriche.
C'est pas l'Autriche, c'est plus au nord.
La Norvège.
C'est la Norvège, je sais pas qui l'a dit.
C'est moi, c'est bien moi.
J'ai
vous
dit
ai entendu.
Ils ont beaucoup d'argent pourtant.
Oui, ouais. Troisième proverbe, je l'aime bien celui-là. Quand le soleil se lève, il se lève pour tous.
Ah,
à votre avis,
bon.
Ça vient, c'est beau, hein.
Portugais.
C'est portugais, oui.
Parce que je me suis dit que.
Bon, tout de suite.
Soleil, ça pouvait pas être au nord, non.
Oui, c'est ça. Le soleil se lève jamais au nord, donc il n'y a pas de problème là. Bah, merci en tout cas pour cette émission.
On
donc,
peut pas finir avec un petit proverbe de chacun de nos pays.
Ah bah alors allez-y, hein.
Moi j'ai pour les Pays-Bas, hein. Il faut pas mettre trop de plumeaux dans son propre cul.
C'est délicat, c'est très délicat, Ruben.
Est-ce c'est que très néerlandais surtout parce qu'on aime bien se faire des compliments à nous-mêmes. Alors c'est ça. Pardon.
Bravo, le plumeau dans les fesses. Très bien. Est-ce que vous avez des proverbes à nous proposer là qui vous viennent à l'esprit?
Moi j'en ai, je pense. Si t'as peur de loup, c'est ça le mot, le loup, le loup,
le loup, ouh.
Le loup. Ouais. Voilà, c'est ça. Va pas dans le forêt.
Ah,
très logique.
Bien. Oui, ouais. C'est très logique.
Ça me rappelle d'une de mes premières chroniques. Donc, j'ai une proverbe en gaélique, mais peut-être quelqu'un se souvient de.
Non, je
ne me souviens pas. Nilain Tintom de Hinton
Fane. Ah, Nilain Tintom Fane. Ah oui, ça me dit quelque chose. Alors, dis-moi, ça veut dire quoi ça déjà?
Bah, direct, c'est. Il n'y a aucun feu comme sa propre feu, mais bon. C'est pas que le feu, c'est le.
Il n'y a
le cheminée, voilà.
Aucun lieu comme son chez-soi, quoi. C'est quelque chose comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça.
Qui sème il vento raccoglie tempesta. Qui sème le vent récolte la tempête.
C'est italien, ça.
Je ne sais pas, oui.
Oui, mais c'est il dit en italien, en tout cas. En tout cas, merci à tous. Merci pour cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page, ou sur SoundCloud, ou sur iTunes. Merci à Grande Contrôle. La prochaine émission, c'est samedi 9 à 16h. Merci Clara, Ruben, Ruta et Sinead pour vos prises de position.
Tu m'as appelé Clara ?
J'ai dit Clara, là ?
Non, t'as dit Clara.
Non, je ne l'ai pas dit.
Je t'ai frappé.
Non, je te jure, je ne l'ai pas dit.
On réécoutera.
Carla, bien sûr.
On réécoutera.
Et merci à Radio Grande Contrôle. Merci Mafé, Mathilde, Charles et PA. Salut. Et on dit au revoir dans toutes les langues. 1, 2, 3.
Ciao.
Salut.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.